Shem. Donc, à partir du début du chapitre 7 de Baba Kama jusqu'à la fin du traité Baba Kama, on parle principalement de dinim, de halachot autour du vol. D'accord ? On a voulu suivre ensemble. Donc maintenant, on a un nouveau cas. Quand on a eu déjà plusieurs cas les semaines précédentes. Merci beaucoup. Va au fantasme au problème. Shakon Yamizvaro.
Amen.
David Ben Mesaouda.
David Yosef.
Ben Mesaouda. Alors, Ganav Al-Bishnaïm. Écoutez ce cas. Là, donc, c'est des cas qui sont un peu complexes. À partir de ce qu'on a commencé la semaine dernière, on a des cas un peu complexes de vol. La complexité des cas qu'on va étudier aujourd'hui, la complexité des cas qu'on va étudier aujourd'hui ainsi que les semaines suivantes, c'est principalement autour du cumul des peines. On va voir qu'une personne il va faire un seul acte, d'accord, et que cet acte va totaliser plusieurs averos. Donc qu'est-ce qu'on fait, comment on le punit, etc. Alors, Ganav Al-Pishnaïm. Si une personne a volé, Al-Pishnaïm, ça veut dire sous le témoignage de deux témoins. Deux personnes l'ont vu. Donc, tout de suite, il est déjà khayav de rembourser d'abord ce qu'il a volé, plus un knas, une amende de kefel, du doux. C'est évident. Parce qu'il y a deux témoins. Deux témoins, on pouvait l'inculper même s'il ne se rend pas. Vetava Rumachar. Non, mais attendez, là c'est. On va compléter. Là c'est une variante. Vetava Rumachar Al-Piyadechad. Maintenant, après cette même personne, donc il a volé un animal, cet animal il a soit vendu. Soit il a fait la shrita, enfin, où il l'a tué, mais il l'a fait non pas devant deux témoins, mais devant un seul témoin. D'accord ? Ou al piatmo, ou bien, il n'y a pas du tout de témoin, c'est lui-même qui vient nous raconter, qui vient nous dire, on a vu, je reconnais, vous m'avez vu le voler, mais en fait, après avoir volé, je l'ai vendu. Il aurait pu le dire, on me l'a volé, hein, le voleur volé.
Il a avoué,
donc normalement, comme on l'a expliqué la semaine dernière, normalement, lorsqu'une personne a volé, il paye le double. Mais si c'est un animal et qu'il a vendu ou fait la shrita, il doit payer 4 à 5 fois selon le type d'animal. Là, le problème, c'est qu'on a des témoins que sur la première partie du vol, mais pas sur la deuxième partie. D'accord ? Alors, meshalem tashlume kefel, veno tashlumem, meshalem tashlumer bava chamisha. Donc, nous dit la Mishnah, très simple, dans ce cas-là, il payera le double, puisque sur ça, on a des témoins. Et il ne payera pas Tashlumer Bava Chamisha, il ne payera pas 4 à 5 fois. Alors quel est le chidouche? Quelle est la nouveauté? A priori, c'est évident. Akbar explique qu'il y a un grand chidouche ici. On aurait pu penser que, étant donné qu'on l'a déjà attrapé sur la première partie du vol, et que sur la première partie du vol, il y avait déjà deux témoins, donc pour la suite, il n'y a pas besoin qu'il y ait encore deux témoins qui te disent « on l'a vu, il a vendu » ou « on l'a vu, il a fait la shrita ». Il suffit même d'un témoin, même si c'est un enfant qui a dit « je l'ai vu ». De toutes les façons, on sait qu'il a mal commencé. Ça a mal tourné déjà. Bien le chidouche de la Mishnah te dit non. Qu'on n'a pas vu, on ne peut pas payer. D'accord ? Ça, c'est pas la Gemara a dit que c'est. Enfin, il y a une longue discussion dans la Gemara. Il y a un deuxième point aussi.
Lui, il a reconnu.
Ah voilà. Ça, c'est encore un plus grand chidouche. Il y a un aveu. Il vient vous dire. C'est moi.
C'est comme un témoin.
D'accord ?
C'est pareil.
C'est plus qu'un témoin. Oui, quand c'est un témoin, on considère que c'est pas assez fort pour l'inculper. Mais là, c'est un aveu. Normalement, on a un principe qui dit que. Odat Baldin, Kemeadin Dami. Que c'est la Gemara qui en parle. Elle dit normalement l'aveu.
Comme
merci. C'est considéré comme 100 témoins. Donc imaginez-vous 100 témoins qui viennent et disent on t'a vu, tu l'as vendu. Ah, pourquoi on lui donne pas le CNAS? D'accord.
Ah mais attends, s'il avouait déjà depuis le début, il n'aurait rien payé
non.
Du tout.
Non, il n'a rien avoué. On l'attaque en justice, on lui dit monsieur,
vous l'avez volé,
on vous a vu. Et lui, il a un moment de tchouva comme ça, il dit vous savez, je ne l'ai pas seulement volé, je l'ai vendu.
Mais un aveu, c'est qui voit un pardon.
Oui, mais quand même.
Oui. D'accord.
Puisque depuis le début, s'il a avoué,
j'ai compris.
Il paye même pas le.
Oui, mais concrètement, voilà. Oui.
S'il l'avoue, il paye pas.
Il a.
S'il l'avoue, il paye pas.
S'il la rend.
S'il avait avoué s'il avoue avant que les témoins, avant qu'ils soient inculpés, il paye pas le glace.
Il paye rien.
Là, il a avoué
une fois qu'on l'a inculpé
de vol,
d'accord. On l'a inculpé de vol. Après, il va avouer que. Il a avoué que vous savez,
mis en examen.
Bon.
Donc on peut dire que pour la deuxième partie, il avoue.
Alors, viens la Gemara explique le chidouche, d'accord ? Il y a un principe qui revient très souvent dans la Mishnah, messieurs, qui dit que modé biknas patour.
Ah bon ?
Ça veut dire quoi ? Bien que normalement l'aveu est considéré comme sans témoin, hein, et donc là, puisque c'est considéré comme sans témoin, donc normalement, suite à son aveu, il aurait dû être raïable de payer ses 4 à 5 fois, parce qu'il avoue qu'il a vendu. Ou bien il avoue qu'il a fait la shrita. Répond la Gemara, c'est la base de notre Mishnah. Modé biknas patour. C'est-à-dire une personne qui avoue sur quelque chose sur lequel il aurait été chayav d'un knas, D'accord. Naknas, ça veut dire que c'est une amende. Patour, il est patour. Un exemple que la Gemara amène, ici chez nous. C'est par exemple, on sait que s'il y a une personne, Dieu préserve, dans certains cas, qui a abusé d'une jeune fille, d'accord, alors il a un knas, il doit payer un knas de 30 pièces. D'accord, 30 pièces, une somme énorme à cette époque-là. Si maintenant il avoue, lui-même il vient au Bedin, il dit écoutez, vous le savez pas, mais je vais vous le dire, je l'ai fait. D'accord, et que personne l'a vu, quel est le dîn? Modé biknas, pas tour. Il est pas tour. Ouais, c'est bon, c'est un cas.
Voilà.
Ouais, il doit aller bouger
normalement. Après, il doit aller bouger.
J'ai dit, ils vont le mettre en prison. J'ai pas dit qu'on n'est pas en prison. La prison chez nous, dans la Torah, c'est uniquement pour empêcher un futur, pour empêcher une récidive. Sinon, on ne sait pas ce que c'est la prison pour la prison. Ça n'existe pas.
C'est éducatif, quoi.
C'est éducatif, ouais.
Soit le pognon.
Et encore, hein, dans Michelin Sanhedrin, c'est très compliqué, on ne met pas comme ça en prison. Ouais, hein. C'est la prison comme il y a aujourd'hui, ça n'existe pas.
Et qu'est-ce que vaut un aveu dans la Gemara, dans la Michelin? Ça vaut quoi, l'aveu?
Sans témoin.
Dans tous les cas?
Tous les cas. Toujours.
Quelqu'un qui dit, voilà, j'ai tué, on le lave.
Alors pareil, c'est autre chose. On dit que les dîners des fachotes, on ne peut pas appliquer sur une... qu'un aveu, ça peut engager seulement tous les dinimes d'argent.
D'accord.
Mais pas les dinimes de dîner mamonote, mais pas les dîners néfachotes.
D'accord. Mais par contre, ça vaut
Michelin Sanhedrin, tout ça, c'est dans Michelin Sanhedrin.
Oui, voilà, mais ça vaut sans témoin.
Sans témoin. Ah oui, l'aveu, c'est normal, il avoue.
D'accord.
Il y a une logique dans ça?
Donc, c'est quoi?
Que cet aveu, l'aveu, là, dans le cas de comment tu as dit? Dans le
oui.
Cas de,
oui. Il y a une logique, c'est oui. Quoi, il y a une logique, c'est qu'on apprend un pasouk dans Mishpatim, par cette semaine. Je crois que c'est, il y a un pasouk qui est écrit que, c'est écrit, Véanchou, enfin, il y a un pasouk duquel on apprend qu'il faut qu'on l'attrape, il faut qu'il y ait des témoins qui le témoignent. J'ai oublié le terme, enfin, je reverrai dans la paracha. Mais il y a un verset là-bas qui dit qu'il y a les témoins qui l'ont témoigné, qui ont témoigné sur lui. Et là, on dit Véanchou auto, on le punira. Mais de là, les rachamim ont compris que si on l'a pas vu, que si c'est le même qui avoue, on peut pas le punir. D'accord? J'ai oublié le pasouk exact, mais c'est dans notre paracha. Alors, Ganav, Vétavar, Béchabat. Si une personne a volé, oui c'est un pasouk, il n'y a pas forcément logique. Ganav vetavar beshabbat. Bon, alors maintenant on a affaire à une personne qui a volé. Il a volé et, pas seulement il a volé, il a fait la shrita pendant Shabbat. D'accord? Donc là on a une double peine. Pourquoi on a une double peine? Bon, voler, c'est pas forcément, je veux dire, quand il a volé, il n'a pas forcément transgressé Shabbat, parce qu'il n'a pas forcément déplacé ça dans le domaine public. D'accord? Par contre, quand il a fait la shrita, là, à tous les coups, il a transgressé Shabbat. À moins qu'il l'ait fait pour un malade, comme explique la Gemara. Il a fait pour un malade. Il a volé pour donner à manger à un malade. C'est un cas qui arrive.
Il est pauvre.
Ouais. Ah, oui, le gars, il casse une pharmacie pour prendre un médicament pour quelqu'un. Enfin, les gens moyens. Revint des voix, voilà. Donc, mais bon, là, c'est pas le cas. Ganav vetavar beshabbat. Donc, si une personne a volé, et il a fait la shrita pendant Shabbat. Donc, étant donné qu'il a fait la shrita pendant Shabbat, c'est quoi le dîn d'une personne qui a été prévenue? Il a été prévenu avec des témoins et tout. Attention, c'est à la source ce que tu fais, etc. Il l'a quand même fait. La halakha est quoi dans ce cas-là? Une personne qui est mechalel Shabbat, il est chayav.
Mita.
D'accord? Il doit être mis à mort. Or, on a un principe, nous dit la Gemara, que celui qui est chayav mita, il n'est pas tour mita shlumin. Celui qui est chayav mita, c'est-à-dire celui qui doit être mis à mort pour x, y, raison, et que pour le même acte, il aurait été chayav de payer un knash, une amende, quelque chose, on considère qu'il n'est pas tour metashlumin, il ne paye pas. C'est-à-dire qu'on lui donne la peine la plus grave. Kamle, biderabba, miné, explique la Gemara. On lui donne toujours la plus grande peine. Il n'y a pas de double peine, ça n'existe pas. Il n'y a pas de cumul de peine. Donc là, c'est la mort. On lui donne toujours la peine la plus grave. Mais ça veut dire que si s'est rendu rêve de plusieurs peines en même temps, on lui donne que la plus grave et le reste, on oublie. Bon, c'est notre cas ici. Il doit rembourser ce qu'il a fait, mais d'un autre côté, il doit être mis à mort.
On aurait dû suivre le cas, dans le cas où il y a des témoins qui disent qu'il a volé.
Ah, c'est ça le cas.
Et il y a d'autres témoins.
Non, mais c'est ça le cas.
Il a fait la shrita. Parce que là, il aurait dû payer que trois fois.
Non.
On voit qu'il paye deux fois plus trois fois. Quelle est la?
Non, non. Là, c'est juste. Là, justement, on va voir qu'il paye rien du tout. Ce qu'on va voir tout de suite. D'accord. On va voir.
Non, mais je parlais pas de ça.
Oui.
C'est dit, on n'a pas le droit de cumuler.
Oui.
Mais dans le cas où il vole et où il tue la bête,
oui.
Il dégrade la bête.
Oui.
Parce que là, il doit payer deux fois
plus trois fois.
Trois fois.
Oui. Non, là, tu as raison. J'ai compris la question. C'est pas un cumul des peines. C'est que la Torah, les Khatrila, dès qu'elle a rendu rêve de deux, elle a dit qu'on le rend rêve de deux uniquement s'il ne continue pas. Mais s'il continue, on le fera payer cinq fois. Je sais pas comment t'expliquer. Comme si je prends quelque chose, je le détériore à 50%.
C'est pas un cumul.
D'accord? Après je le détériorerai à 100%. Ben, je paierai 100%, mais c'est pas un cumul. C'est parce qu'on me dit, bon, 50% si tu t'arrêtes là. Si tu continues, ben, ça sera 100. Donc, dans les mots. Ganav et Tabar, Beshabbat. Il a volé, Et il a fait la shrita qui est interdite, il est chayav mita. Pour la shrita, il est chayav mita, mais Shabbat pendant Shabbat.
Donc le tribunal le condamne à mort.
Il le condamne à mort, oui.
Pour Shabbat, alors oui. Que Shabbat c'est une avéra par rapport à Dieu.
Pas,
on
ouais.
condamne à mort par un tribunal.
Oui, bien sûr. Bien sûr, là, c'est très vite.
Mais
Khaléléa,
Motumat. Mais que
j'adresse,
d'accord.
Alors, bon, mais ça c'est un autre registre. Là, on est plus dans le juridique. Non, on est plus dans le juridique, là. Ça, c'est. Comment ça se fait que le Bédine, de quel droit le Bédine te permet de traiter des choses qui sont entre l'homme et Dieu? C'est une autre question. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais on va pas s'arrêter sur ça aujourd'hui. Ganav et Tavar, la Vodazara. Si une personne a volé. D'accord. Et il a fait la Shrita, la Vodazara. Ça veut dire qu'il a préparé un animal, pourquoi? Pour la Vodazara. Là, il est Chayav Mita aussi. Pourquoi il est Chayav Mita? Puisqu'il a servi la Vodazara. Mm-hmm. Il a fait la Shrita, ça veut dire qu'il a mis devant un autel de la Vodazara, et il a tué l'animal. De la même manière que nous, on a un autel dans lequel on fait les sacrifices, les Havdi, il a fait Havdalot, d'accord? Eux aussi, ils ont des sacrifices. Ils ont des autels dans lesquels ils font les sacrifices.
Il est puni pour le vol ou il est d'accord puni pour
attendez.
La Vodazara?
Attendez, plus il a fait un sacrifice,
Shabbat.
Un sacrifice, non, on n'est pas Shabbat là. Il a fait un sacrifice pour la Vodazara. On est Chayav Mita. La Vodazara, on est Chayav Mita. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas. On n'a pas encore donné la Halakha. Pour l'instant, on a uniquement les cas de figure. Troisième cas de figure. Ganav, Michel Aviv. S'il a volé quelque chose qui appartient à son père, ou Met Aviv, et son père est mort. Donc le gars, il a volé son père, et son père est mort. Bon, c'est un cas qu'on a déjà vu. Sauf que là, il y a une variante. Ve'acharkar Tavachumara. Une fois que son père est mort, et donc il est l'héritier. D'accord. Mais, c'est quoi le problème c'est qu'il est héritier, mais qu'il n'est peut-être pas le seul héritier.
Mais il se vole lui-même, frères, il a des frères.
Alors après, il a vendu, ou il a fait la shrita de cet animal. D'accord. Donc là, c'est pas cumul des peines, là c'est au contraire, c'est que la peine ne peut plus être à 100%, puisque finalement, c'est vrai qu'il a continué quelque chose, un acte qu'il avait démarré, un issour qu'il avait démarré, c'est vrai, mais d'un autre côté, entre-temps, il y a des choses qui ont changé. Entre-temps, il est devenu l'héritier. D'accord. Alors c'est quoi le djinn dans ce cas-là? Donc je vous rappelle, dans le dernier cas de l'héritier, il n'est pas le seul héritier. Donc, il n'est pas le seul héritier, donc quand il a volé, il était déjà chayav de 50%. Donc, de payer, pardon, le 100%, le double, 200%. Donc, il doit rembourser ses 200%. Il devait les rembourser avant la mort de son père. Donc, il les doit. Alors, c'est quoi le dit dans tous ces cas-là? Écoutez bien. Meshalem tashlume kefel, veino meshalem tashlume arba'a bachamisha. D'accord? Dans ce cas-là, il rembourse uniquement le double, mais il ne rembourse pas 4 ou 5 fois. Dans tous les cas qu'on a dit ici, on ne fait jamais le cumul des peines. Donc je reprends le premier cas par exemple. Une personne qui a volé et qui a fait la shrita pendant Shabbat. Oui, il a volé, il a fait la shrita pendant Shabbat. Alors je vous repose la question. Est-ce que quand il a volé, il a transgressé Shabbat?
Non.
Non. Oui. Donc, dès qu'il a volé, on l'a attrapé. Il était déjà chayav à ce moment-là de payer combien? Kefel, deux fois. Donc c'est pour ça qu'il payera deux fois. Après, il a fait la shrita devant les témoins. Bon, il a fait la shrita devant les témoins. Là, je vous pose la question. Est-ce qu'il a transgressé Shabbat? Oui. Donc, puisqu'il a transgressé Shabbat, sur ça, on peut plus avoir le cumul de la peine. Donc, là, on ignore le fait qu'il a fait la shrita. On le rendra pas chayav de payer 4 à 5
oui,
fois.
Oui, parce que la d'accord mort, elle
et c'est la même chose dans tous les cas qu'on a dit. D'accord? Dans tous les cas qu'on a dit, ça veut dire que, il a commencé, il a volé, à ce moment-là, il n'y a pas de cumul de peine. Donc, on le fait payer pour ça. Très bien. Ensuite, entre-temps, la situation change.
Il y a pas de cas où on condamne à mort et on fait payer les héritiers.
Non. On peut pas. À moins que on l'a inculpé pour quelque chose qu'il a fait avant, ça veut dire pour un acte qui a été fait avant la chose pour laquelle il a été inculpé. D'accord. Voilà. C'est comme ici. C'est-à-dire qu'il a volé en premier temps, il a volé vendredi soir, et samedi matin il a fait la shrita. Bah, vendredi soir, il était déjà chayav de payer le double.
Et là, ce que là, les héritiers sont tenus de payer.
Oui, bien sûr, il est tenu de payer 50%.
Bien sûr.
100%. Là, 200%.
Mais là, pour Shabbat, je comprends pas. Il y a quand même un cumul de peine. Il a condamné à deux choses.
Non, parce que le cumul de peine, pourquoi il n'y a pas de cumul de peine?
Parce que
c'est en deux temps. Ça, j'ai dit vendredi soir, samedi matin.
Donc il paye double, après il se fait tuer.
Non, normalement, il aurait dû payer 4 à 5 fois.
Ou il se fait tuer, après il paye double.
Ouais, c'est pas grave. Parce que la raison pour laquelle il est chayav bita, c'est l'acte qui aurait dû le rendre chayav de payer 4 à 5 fois.
C'est pas oui, d'accord. Exécuté.
D'accord.
Donc,
vendredi soir, on le rend chayav, mais sauf le samedi matin.
Donc il paye le double, quand même.
Oui, bien sûr. Parce qu'il était déjà inculpé tout ça avant.
Mon viol, il ne serait pas exécuté pour un viol.
On dit bien que la mort...
On va le prendre.
La mort, quand on lui enlève la vie, on lui ça fait capara sur le vol.
Pas envers Dieu, pas envers les hommes. Il est mort, ça change pas, il a perdu son argent quand même.
La capara est envers Dieu.
Bien sûr.
Donc là-haut, il n'est pas accusé
de vol. Bien sûr. Combien d'histoires? On a plein d'histoires, on a comme ça. Des fois, des gens de Dieu préserve qui sont partis de ce monde et qui sont venus voir leurs héritiers ici-bas et qui leur ont dit rembourser à un tel je dois parce que mon tikkun, ma capara est bloqué en haut. On me bloque pour ça, on dit tu dois de l'argent, et lui, il a lui, il pleure pour cet argent.
Oh là là.
C'est sûr.
C'est, le, c'est sûr.
Ah oui, c'est sûr. Enfin, très souvent, les gens qui sont très religieux...
Alors, il n'y a pas d'assurance sur le crédit. Hein. Il faut prendre une assurance, il y a des assurances aujourd'hui pour ça.
L'argent, ça alors, touche plus que...
Non, mais il y a des assurances pour ça. Des assurances que si Dieu préserve.
Une assurance vie.
Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours. Pas obligatoire. Pas obligatoire.
C'est obligé, mais quand je veux un prêt d'un ami ou de quelqu'un, c'est ça qu'on va.
Alors, je continue. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kodashim Shechaya Be'acharayutam, Meshalem Tashlume. Ah, on parle de la Mishnah, donc c'est Kodashim Shechayav Be'acharayutam. Kodashim, donc Kodashim, ça veut dire du mot Kodesh. Kodesh, ça veut dire consacré, ça veut dire un sacrifice qu'on a consacré pour le Beth Amikdash, mais qu'on n'a pas encore amené au Beth Amikdash. Par exemple, je prends un animal et je dis, lorsque cet animal aura un an, lorsque cet animal aura deux ans,
il est consacré.
Je l'offrirai au Beth Amikdash. Voilà. Donc il n'a pas encore un an ou deux ans, mais je le consacre. Il est déjà consacré. Donc, ce sacrifice, je suis Chayav Be'acharayuto. Je suis chayav, je suis responsable, donc je suis responsable, et si je le perds, ben je dois ramener un autre sacrifice. Enfin, il y a des gens qui pensent, quand j'ai mis l'argent à la tzedaka, c'est fini. Non, mais c'est vrai, vous savez qu'on est responsable de la tzedaka. C'est un vrai cas, on en parlait hier avec M. Bismuth. Imaginez-vous que quelqu'un, il laisse sa tzedaka dans un endroit apparent de la voiture.
On lui vole la tzedaka.
On lui casse la voiture, voilà. On lui vole la voiture, allez.
Ouais.
On lui vole la peine, la plus grande peine, on lui vole la voiture. On lui a volé aussi la tzedaka. Il doit essayer d'évaluer combien il y avait dans la tzedaka et le rendre. Parce qu'on est chômeur chinam de la tzedaka, on est gardien bénévole. Et un gardien bénévole est responsable lorsqu'il y a une faute. Oui ?
C'est parce qu'il n'a pas été vigilant.
Parce qu'il n'a pas été vigilant.
Mais s'il était dans sa maison...
Il a volé sa voiture.
Non.
C'est pas le même cas. S'il vole que la tzedaka apparente,
non,
s'il vole la voiture
oui,
la tzedaka dans sa
main,
dans le
vide-poche. J'ai compris. S'il est laissé apparente. Non, les deux, on lui a fait. On lui a tout fait. Il était à Porte de la Chapelle.
Du petit en cours, à vendredi.
Du petit.
À vendredi à Marbelle.
Alors, ce que je veux dire ici, c'est important, regardez. C'est que on est chayav, d'accord? On est chayav, on est chômeur chinam, on est gardien bénévole sur une tzedaka. C'est très important. Ça, les gens, ils pensent quand on est mal à tzedaka, ça y est, c'est déjà bien que j'ai donné, ne prends pas la tête. D'accord? On est gardien, ça veut dire que si je fais pas attention que la femme de ménage, elle passe, et qu'elle vole, je suis responsable pour ça. On me posera des questions sur ça.
Ouais.
Eh ben oui.
Ça va loin quand même.
Moi, mais ça va très très loin. Moi, quand la femme de ménage qui vient à la maison, je cache toutes les zakotes. Non, il n'y a pas de circonstances, non. Tu laisses l'argent, tu laisses une tirelire devant une femme de ménage. Bien sûr qu'elle va te servir.
S'il y a un incendie.
D'accord.
S'il y a un incendie.
Là, encore une fois, il n'y a pas de... J'aurais laissé une tirelire devant elle.
Tout le monde est sa parent.
Je laisse pas mon portefeuille. Donc je laisse pas. Moi, je fais attention, même ici, je fais attention, j'ai envie de la tzedaka avant que le jour où ça me vient, je vis de la tzedaka avant. Je laisse qu'une pièce, parce qu'il faut toujours laisser une pièce. On laisse jamais une tzedaka vide, c'est pas un respect qui s'écrit comme ça. Et bon, elle vaudra pas une pièce, parce qu'elle va dire, il y avait une pièce. Elle se remarque.
Puis il y a les caméras, non.
Ça me rappelle, lorsqu'on était à la yeshiva, une fois, il y avait un voleur très intelligent, à tel point qu'on a pris du temps à se rendre compte. Je sais pas qui c'était d'ailleurs, hein, c'était un homme de ménage, je sais pas qui c'était, mais il rendait la monnaie. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que quand par exemple il te prenait à l'époque c'est les billets de 50 francs, il te prend pas simplement un billet et sans te laisser rien dans la poche, il te met un autre billet dans la poche.
Euros,
comme ça tu dis bon j'avais déjà un billet, tu vois, c'est-à-dire tu dis bon j'avais ça, je croyais, et tu te rassures, elle a pris du temps, on l'a attrapé.
Il prenait que ce qu'il avait besoin.
Très intelligent.
Très bien, sans prendre des billets de 50 francs.
Voilà, 150 par exemple.
Il avait un mec de 100, avec lui.
Les actions.
En
un doute, tu dis bon, ah, je croyais que j'avais 100, bon, j'ai 50, d'accord. Alors je continue dans les mots. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Kodashim Shechayav Be'acharayutam. Les Kodashim, c'est-à-dire les sacrifices sur lesquels on est Chayav de leur responsabilité, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, comme j'ai dédié ça au Beth Amikdash, ben je suis Chayav. Je suis responsable, Be'acharayutam.
Et si l'animal meurt de mort naturelle, pareil.
Si.
Si l'animal meurt de mort naturelle.
Non, là non. Parce que là, il n'y a pas de faute. D'accord. Alors, mais si par contre, je me suis fait voler ou je l'ai perdu et qu'il y a une faute, je dois le rembourser. Meshalem, tashlume, arba, vachamisha. D'accord. Donc de la même manière. Alors ça, c'est intéressant. D'accord. c'est que, c'est très intéressant le cas de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, imaginez-vous que j'ai un sacrifice. Donc j'ai un animal que je prends, je lui dis, je dédie cet animal au Beth Amikdash. Bon, je l'ai dédié. Ensuite, quelques temps après, je me dis, bon, tu sais quoi, c'est pas celui-là que je vais donner, celui-là je vais faire la Shrita, et je donnerai un autre. J'emprunte, entre guillemets. Et ben Rabbi Shimon, il te dit non. Il te dit, non seulement tu vas rembourser, mais quand tu viens de voler, tu dois rembourser 5 fois plus au Beth Amikdash. Parce que tu viens de voler et de faire la Shrita.
4 ou 5.
D'accord, 4 ou 5 selon le type de... C'est-à-dire, je viens de voler quelque chose que je viens d'offrir. Vous voyez comment...
Là.
Donc il était destiné à être offert.
Et oui, mais le problème c'est que... Le problème c'est que quand j'ai fait le vœu et que j'ai donné cet animal, cet animal qui doit être offert. J'ai pas le droit de le changer.
Si on transpose à l'histoire de la Tzedaka, c'est vachement grave. Des fois on a un billet, on dit tiens je vais mettre 10 euros. Si on a une course à faire, la femme qui appelle va acheter un pain, on a que ces 10 euros là.
C'est une bonne question. Sur la Tzedaka, on ne donne pas le billet, on donne la valeur du billet. D'accord. Il y a un traité de Mishnah qui s'appelle Tmura, qui parle justement de ces cas. Qui dit que quand on donne la tzedaka, c'est pas le billet que je donne, c'est la valeur que je donne. Alors que pour le sacrifice, c'est l'animal que je donne.
Désigné.
D'accord. C'est nominatif, j'ai envie de dire.
Excuse-moi. La pensée de donner quelque chose, après on change d'avis, c'est pas un vœu. Je vais donner 260, puis finalement, non, je vais donner que 100.
Si.
C'est un vœu, la pensée?
Pour la tzedaka, la pensée, c'est un vœu.
Ah bon?
Ouais, faire attention. Que pour la tzedaka. Pour les autres choses, il faut le dire. Varim shebalev enam dvarim. Pour les autres choses, les choses qu'on dit verbalement, tant que je ne l'ai pas dit verbalement,
c'est
pas
possible. Mais quoi, on pose un truc et puis
finalement, si vous avez... Je vous donne un exemple. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Imaginez-vous quelqu'un par exemple qui vient pour ramasser de l'argent. Bon, il va toucher, je lui dis, bon, ça, je vais lui donner 100 euros. Allez, je vais lui donner 100 euros. Après, entre-temps, l'entend qui parle, etc., je me refroidis, je me dégonfle, comme on dit.
Ça nous plaît pas ce qu'il dit.
Voilà, après, moi, je dis, ouais, bon, finalement, j'aime pas trop. C'est trop 100 euros. Et je réduis. C'est comme les gens qui attendent la fin de la bar mitzvah ou du mariage pour faire le chèque. Alors au début, dimanche, je donne, après, il dit, bon, ça, c'est pas trop bon, et le temps du dessert. Non, on parle pas de 100 euros, d'accord. En tout cas, c'est la même chose. Le fait qu'il a... Là, c'est pas une tzedaka aussi. Le fait qu'il a décidé, dès qu'il y a une décision, s'il y a un safek qui dit, bon,
non,
peut-être je vais donner...
Non, c'est pas une décision.
Il a décidé.
Non,
c'est un safek. Il dit, bon, j'aimerais bien lui donner pourquoi pas. Là, c'est pas un don. Mais quand il a décidé, il a dit, celui-là, je lui donne 100 euros, celui-là, je lui donne 200, celui-là, 500. J'ai décidé. C'est un éder. D'accord.
Ah, c'est encore pire, ça. Non, elle est prononcée.
Je peux vous dire, j'ai pas envie, c'est important, j'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire quand même. Le traité Rosh Hashanah, c'est écrit dans le traité Rosh Hashanah, tu entends Yves? C'est écrit dans le traité Rosh Hashanah, que pas, j'ai pas envie de le dire, mais c'est écrit. Bah, avant les arrive.
Quand tu dis matana, il faut penser à la valeur de ce que tu veux donner.
Non, pas forcément.
Non, la pensée, c'est...
Non, pas forcément, non.
Pas forcément de lire matana, et tu veux, je vais réfléchir à ce que je vais donner.
Alors, c'est écrit, messieurs, c'est écrit, Bavon, Netarim, Banim, Metim, Shemishmor. C'est écrit clairement dans le traité Rosh Hashanah, c'est écrit que dans la faute des Netarim, ça veut dire les gens qui donnent un Neder et qui ne le payent pas, Dieu préserve, à cause de ça, les enfants meurent. D'accord? Et c'est écrit dans les commentaires là-bas qu'on parle pas forcément d'une mort matérielle, on peut parler également d'une mort spirituelle. C'est-à-dire les enfants qui quittent le chemin de la Torah, comme ça les Mefarshim nous expliquent là-bas. C'est-à-dire, c'est très grave. Quand on a Dieu préserve le chinour, l'éducation des enfants, voilà. Faire attention à ça, c'est écrit. Les choses ne sont pas écrites, les choses de la superstition, mais ça c'est écrit. Bavon et Darim, Bani Messi. La décision par la pensée dans la Torah, c'est considéré.
Une réflexion.
Après, on va pas jouer avec les mots. Mais quand il y a une décision. Bon, peut-être, vous avez bien dit peut-être.
Mais si je... Non, la preuve, c'est que dans la paracha des Darim,
oui.
Un mot de sa fille.
Oui.
C'est-à-dire tout ce qu'elle dit, la femme. Si elle l'a pas dit.
Motsat Patserat, Ishmor Vasita, c'est écrit, oui.
Si elle n'a pas sorti la
parole. Akol Motsapi Hashem Riyadah, oui.
Il ne peut pas lui
entendre. Vous avez raison.
Donc il faut que ça soit sorti par la femme.
Mais je vous l'explique.
Si la pensée, c'est pas.
C'est que sur un arbre, ce que je vous dis.
La pensée, c'est pas trop grave.
Ça, je donne toujours
un. Faites ce que vous voulez.
Non, la pensée c'est pas grave, on
n'est
pas des...
Moi je lui dis, c'est que je suis un arbre.
La pensée, on peut penser trop.
Moi je pense que chacun est capable de mesurer lui-même l'intensité de sa pensée au moment où il a pensé.
Si on a décidé...
C'est subtil comme ça, voilà. Je ne sais pas combien, mais quand je dis à lui, c'est sûr, je vais donner, toi-même tu sais quelle est la valeur de ta propre pensée à un moment où tu l'as...
Alors, si une personne a décidé de donner un cadeau à sa femme...
Après tu sais, quand tu fais marche arrière, tu sens que...
Si une personne a décidé de donner un cadeau à sa femme, après il regrette. Mais il lui a pas dit,
ça vaut rien. Ça vaut rien.
Chacun.
C'est pas un vœu.
Il rentre dans le, chez le fleuriste, il dit, je vais lui acheter un bouquet de fleurs, 150 €.
Ça vend le barbecue.
Il ressort avec un bouquet à 30 €.
Elle méritait pas.
C'était trop lourd. On peut pas s'empêcher de penser. On doit la citer.
Il a avancé. Il a eu. Alors on y va.
La ZAF fait des âges.
Un petit peu, voilà. Dès qu'on parle d'argent, tout de suite. J'ai l'habitude. Kodashim shechayav b'acharyutam, meshalem tashlumi arba v'chamisha, v'she'eno chayav b'acharyutam, d'accord? Mais si c'est un sacrifice, dans lequel she'eno chayav b'acharyutam, dans lequel on n'est pas chayav de la responsabilité, patour, il est patour. Alors, c'est quoi la différence? C'est très simple. Explique la Gemara, la différence est très simple. Quels sont les sacrifices dans lesquels on est chayav de la responsabilité, et quels sont les sacrifices sur lesquels on n'est pas chayav de la responsabilité? C'est très simple. On dit la Gemara, qu'il y a deux catégories. Il y a une première catégorie dans laquelle une personne dit « Je dois un sacrifice au Beth Amikdash ». Et qui dit notamment « J'ai envie de donner celui-là ». Mais il n'a pas limité son sacrifice à cet animal-là. Et cet animal a été perdu. Bah là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Très bien. Maintenant, il y a un deuxième cas. C'est quoi le deuxième cas? C'est qu'il dit « Ce sacrifice est pour le Beth Amikdash ». Et que, écoutez bien, il est parti appeler le Gizbar ou le Gaba, enfin aujourd'hui on appelle ça le Shamash.
D'accord.
Il a dit « Voilà, il y a un sacrifice, venez le chercher ». Voilà. Et ça veut dire, je vous le garde en dépôt, mais venez le chercher. Et entre temps, l'autre n'est pas venu le chercher. Et entre temps, on l'a volé le sacrifice, et lui, il n'était pas responsable. Là, dans ce cas-là, on dit, qui c'est qui a perdu? C'est pas moi qui a perdu. C'est le Beth Amikdash qui a perdu. Parce que, s'il n'y a pas eu de faute, et pas ça, c'est pas Mais par contre, et ça c'est intéressant. Si j'ai dit, je dois un corban au Beth Amikdash, j'ai pas dit, ce corban est pour le Beth Amikdash. Et que, j'ai dit, je dois un corban, mais bon, je visais cet animal, mais j'ai pas dit que c'est celui-là. Et qu'on vole cet animal, disons que je ne suis pas responsable. On le vole et que je ne suis pas responsable, j'ai pas fait exprès. Eh bien, je dois donner un autre. Pourquoi? Parce que j'ai pas désigné ce sacrifice. Donc c'est moi qui ai perdu, c'est pas le Beth Amikdash qui a perdu.
Mais si, mais une fois qu'il a dit au Gizbar, il a dit cet animal.
Bah, très bien, c'est le deuxième cas. Là, tu as raison, là il n'est pas tour. Là, s'il n'y a pas de faute, oui, si on le vole sans faute, il n'y a pas de faute. On me l'a volé, on m'a cambriolé, qu'est-ce que je fasse? D'accord? Mais par contre, ça veut dire la question est, lorsqu'il y a une perte, c'est que personne ne peut être responsable, parce qu'il y a eu, je veux dire, il n'y a pas eu de faute, c'est un cambriolage. Qui paye? Qui prend la responsabilité? D'accord? Enfin, ça dépend. Si j'avais dit, alors en hébreu, je vous dis en hébreu, c'est Are Zou Korban ou Are Alai Korban. Voilà, en hébreu. Ça veut dire Are Alai Korban, ça veut dire je dois un sacrifice. Peut-être que je regardais cet animal, mais j'ai pas visé cet animal. Là, dans ce cas-là, si je le fais voler, même si je ne suis pas responsable, ben, je donne un autre. Par contre, Arezou Korban, c'est quand je dis celui-là est un sacrifice. Là, s'il a été. Si on me l'a volé sans responsabilité, si on me l'a volé et que je ne suis pas responsable parce que c'est un cas de force majeure, ben, dans ce cas-là, je rembourse pas.
Il y a un préjudice ici.
Oui.
La personne qui voulait offrir n'a pas pu offrir.
Oui, tu as raison.
Qu'est-ce qu'on fait?
Alors.
Ah, mais...
Ça veut dire quoi le préjudice? Alors on va
poser la question, excuse-moi. Parce que quel rapport avec la fin de la Mishnah avec le début? De quoi on parle? Parce qu'au début on parle d'un voleur, là il n'y a plus de voleur, enfin, oui. Le voleur a disparu. Donc le préjudice, il y a un voleur qui a volé un truc, mais du coup on parle du propriétaire maintenant.
Alors,
quel rapport avec le début?
C'est qu'on a expliqué tout à l'heure que dans le cas des sacrifices, on peut avoir une personne qui a donné un sacrifice au Beth Amikdash, qui a dit ce sacrifice sera pour le Beth Amikdash, et que il décide après par la suite de prendre ce sacrifice et de faire la shrita. Donc il a volé au Beth Amikdash. Devant des témoins. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
Ah, là c'est l'équivalent d'un voleur.
Voilà, non. C'est vrai que le cas que je viens de dire n'est pas ce cas. Mais ça veut dire que c'est comme ça qu'on est passé au sacrifice. Parce que c'est-à-dire que je peux avoir quelque chose qui est chez moi, et que c'est moi qui a donné, et que je peux voler quelque chose que j'ai donné. C'est ça qu'on vient de dire.
D'accord. Donc le préjudice. Par contre, non, le préjudice, c'est celui qui voulait offrir. C'est une autre question. Il a demandé au...
Pourquoi il voulait l'offrir? Ça dépend. Si c'est un sacrifice Ola, Holocauste par exemple, il a offert...
Il n'a pas offert. Alors?
Ça veut dire qu'il va rien se passer. Par contre, c'est un sacrifice Ratat. Un sacrifice qu'il devait offrir pour une faute, là tu as raison, effectivement, il devra
rentrer. Même Ola.
D'accord.
Et alors?
Ola, non. Je me suis engagé, j'ai dit, je fais Ola, c'est un don. Je fais un don, j'ai envie de remercier Dieu. D'accord? Pas Toda, mais bon. Oui, j'ai compris. Si, il a fait le don.
Mais on lui a volé entre temps.
Il a fait le don.
Il a dit, je le donne.
Oui, donc il s'est pas allé à Kadosh Baruch Hu.
Si.
Entre guillemets.
Il a fait le don. Il a pris le sacrifice. Il a dit, ce sacrifice appartient au Beth Amikdash.
Il a dit ça au Shamash.
Il a prévenu. Entre temps, il y a eu un cambriolage. Il n'est pas responsable. Il a fait le sacrifice. C'est pas de sa faute. Après, c'est de la faute de Dieu, entre guillemets. D'accord. Enfin, bah oui.
Mais il gardait l'animal chez lui quand même.
Oui, il gardait l'animal. Mais il gardait un objet qui ne lui appartenait pas. Donc il est un gardien bénévole. Alors que s'il avait dit, arrête, Allah et Corban, ça veut dire, je dois donner un sacrifice, pas ce sacrifice.
Il doit rembourser quelque chose.
Bien sûr.
Il doit substituer le don.
Évidemment. D'accord. Alors on s'arrête là.
On ne parle pas de la